RMC Motors, Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir. C'est vrai que je vous le dis chaque dimanche, mais c'est la vérité. Dans ce motor spécial, évidemment, avant Grand Prix de Formule 1, c'est la 10e manche du championnat du monde. C'est à Silverstone. C'est un des endroits magiques du calendrier, évidemment. Un endroit qui est en danger. On va en parler un petit peu avec Louis Amar dans un instant. Louis Amar, que j'ai le plaisir d'accueillir, bien sûr. Salut Louis.
Bonjour à tous.
Et puis Adrien Tambay qui est avec moi dans ce studio également pour analyser cette grille de départ. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc, salut Louis, salut à tous.
Salut.
Et puis Patrick Tambay qui nous fait le plaisir de nous rejoindre avant ce Grand Prix magique. Salut Patrick.
Bonjour Jean-Luc, bonjour messieurs.
Salut. Bonjour Patrick.
Oula.
Alors Patrick, je disais effectivement Grand Prix magique puisque c'est un endroit où s'est déroulé le premier Grand Prix de Formule 1. Il faut le rappeler, c'était le 13 mai 1950, j'ai consulté mes notes. Et depuis, évidemment, il y a toujours eu un Grand Prix de Grande-Bretagne. Patrick, je l'évoquais dans les GG, dans les Grandes Gueules, il y a un instant, avec des vitesses de pointe absolument fabuleuses. Et puis un enchaînement magique, un Copse, Beckett, Chapelle, ça c'est quelque chose.
Ah, c'est l'ancien circuit ça. Avec, oui, c'est tracé sur un aérodrome, bien sûr autour des runways et des pistes de décollage et d'atterrissage. Donc c'est un ancien tracé qui a évolué un petit peu maintenant dans le temps et qui présente de nombreuses courbes à grande vitesse, que des temps forts de Beckett dont tu parles, bien sûr de Corps et puis de Stowe.
Alors Louis, effectivement une atmosphère particulière, je le disais, puisqu'on joue à domicile pour la majorité des équipes de Formule 1. Il faut le rappeler, 8 d'entre elles, si mon compte est exact, sont voisines, hein, sont vraiment juste à côté de Silverstone. Certains viennent même à pied, et puis c'est l'occasion, il y a les familles qui sont là, mais également on parle beaucoup des équipes en Formule 1, on rend hommage sur les podiums aux hommes des équipes, et bien ces équipes, elles sont là dans les tribunes, Louis.
Exactement, elles sont là en nombre. Alors par exemple, on peut citer Force India dont l'usine est à Silverstone, on peut citer Mercedes dont l'usine est à Brackley, à quelques kilomètres à peine du circuit de Silverstone. Donc effectivement, les tribunes sont garnies des mécaniciens qui d'habitude n'assistent pas au Grand Prix, hein. Les membres de l'équipe sont en général confinés dans les usines pendant les courses, et cette fois ils peuvent assister au Grand Prix grandeur nature. C'est aussi plus pratique, comme nous l'expliquait en début de week-end Esteban Ocon par exemple, si on se rend compte qu'il manque une pièce ou qu'il faut aller chercher une amélioration avant que la voiture soit sous régime de parc fermé, bah évidemment les problèmes d'acheminement sont moindres. Et puis tu parlais de l'ambiance. Cette ambiance, elle est fantastique. Dès les premières heures du matin, il y a des bouchons monstres pour accéder au circuit de Silverstone. On va ici en pèlerinage, comme on va à la messe. Chaque année, il y a énormément de monde qui viennent garnir ces tribunes. 350 000 personnes sur l'ensemble du week-end.
Eh oui, et puis c'est vrai qu'il y a des embouteillages inextricables, hein, Patrick. On a quelques souvenirs ensemble pour gagner ce circuit de Silverstone dans une autre vie. C'est quelque chose, hein. Silverstone, c'est un succès absolu, c'est pour ça que faut absolument que ce Grand Prix perdure, quoi qu'il arrive.
Ah, je sais pas. Oui, tout ce que tu veux, tu peux faire n'importe quelle pièce dans l'environnement général à quelques distances du circuit. C'est très, très petit, l'Angleterre, c'est pas très grand. Donc, c'est vraiment un puits de compétences, de sources, de savoir-faire extraordinaire.
Ah oui, Adrien, c'est la Silicon Valley de la Formule 1. Tu es sensible aussi, évidemment, à ça, à cette ambiance particulière autour de Silverstone.
Mais je crois que vous l'avez tous très bien résumé. Messieurs, les Anglais sont vraiment des passionnés de sport automobile et de Formule 1 en particulier. Avec la plupart des équipes qui sont basées aux alentours de ce circuit et ce circuit qui est formidable pour un pilote. Vous avez parlé des enchaînements de virages rapides, de Copps, de Beckett, de Maggots, de Chapelle, de Stowe. Tous ces virages là sont vraiment grisants à prendre au volant de monoplace comme celles que sont les Formule 1. C'est à des vitesses folles. On passe en huitième à fond dans Copps par exemple. Maintenant avec les voitures de cette année, c'est fou. Et en plus, ce circuit est très intéressant parce qu'il y a toute une partie technique. Maintenant, le premier secteur est devenu le deuxième secteur là, depuis quelques années. Mais effectivement, c'est un circuit complet où la qualité du pilote ressort à chaque fois.
Alors, on va écouter évidemment celui qui a décroché une pole position extraordinaire, la 67e de sa carrière de Formule 1. C'est-à-dire qu'il est à une pole seulement du record de Michael Schumacher. C'est sa 5e pole. Il a égalé Jim Clark sur ce tracé. C'est évidemment Lewis Hamilton qui nous parle de cette course pour le titre, bien sûr. C'est au micro de Louis Amar et de ce Grand Prix.
À part la course pour le titre, c'est le Grand Prix le plus important de l'année pour moi. C'est un moment incroyable de remporter une course à domicile, de hisser le drapeau anglais sur ce circuit. Donc je veux revivre ça ce week-end, mais ça va être très difficile, très serré, parce que les Red Bull viennent avec une évolution importante et que les Ferrari sont toujours rapides. Ça sera donc plus compliqué que les années précédentes, mais je me sens mieux préparé que jamais.
Il l'a emporté à 4 reprises, hein, Lewis Hamilton à Silverstone en 2008, et puis une série fantastique, 2014, 2015, 2016. Évidemment, il rêverait, on l'a dit, d'égaler Jim Clark sur ce tracé. Patrick, cette pole, il l'a décrochée à la pointe de l'épée, on va dire, piqué un petit peu par les critiques, hein, puisqu'il n'avait pas participé à ce fameux événement organisé dans Londres. C'était le seul pilote de Formule 1 actuel à ne pas être venu. Eh bien, il a répliqué de la plus belle des manières, Lewis Hamilton.
Oui, or je ne sais pas si c'est parce qu'il avait pris quelques jours de vacances et qu'il est le seul à l'avoir fait. Je suppose que c'est plutôt pour essayer d'égaliser et puis de se mettre en position, peut-être même de surpasser les performances de Jim Clark et de Michael Schumacher. Je pense que c'est beaucoup plus important pour lui que de démontrer que, bien sûr, il est redevenu un pilote de course.
Oui, oui, oui. De toute façon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Dès qu'il s'assoit dans le baquet de sa monoplace et qu'il baisse la visière de son intégrale...
Ah, c'est une bête de performance et de vitesse.
Ah, c'est un chasseur de pôle. On écoute Lewis Hamilton parler de cette pôle extraordinaire.
C'était un tour spectaculaire. Au début, c'était encore un peu glissant à certains endroits, donc je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Et puis à la fin, je me suis dit, Lewis, c'est maintenant, il faut tout donner. Et je voyais mes fans debout, qui hurlaient, qui voulaient aussi que j'ai cette pole. Et ça vous pousse vers le haut.
Et puis, Louis, tu l'as vécu avec nous hier en direct sur RMC, la radio de la Formule 1. Effectivement, cette pole, elle a été accompagnée dans les tribunes, hein, parce que secteur par secteur, il n'y a peut-être pas un public au monde qui est plus pointu que celui-là. On a suivi la performance de Lewis.
Pointu, fidèle et enflammé, le public de Silverstone, parce qu'à chaque fois que Lewis Hamilton passe devant l'une des tribunes toutes acquises à sa cause, évidemment ça déclenche des clameurs incroyables dans ce circuit. Je vous parlais tout à l'heure du monde des 350 000 personnes qui sont venues assister à la Formule 1 tout au long du week-end. Et bien évidemment, ça fait un bruit fou quand Lewis Hamilton passe devant eux. Et même si évidemment il est là davantage pour se rapprocher du record de pole de Michael Schumacher, pour jouer pour un titre de champion du monde, il y avait une opération rédemption à opérer pour Lewis Hamilton, parce que les fans anglais était quand même assez vexé de ne l'avoir pas vu mercredi à Londres, dans un événement qui a suscité là encore beaucoup de ferveur et beaucoup de passion, de voir ces Formule 1 rouler en plein cœur de la capitale britannique. Et depuis le début du week-end, Lewis Hamilton, à chaque fois qu'il peut passer un petit peu de pommade sur ses fans quand même, il va, et vous l'avez entendu là, les mettre en avant, louer leur incroyable enthousiasme et dire qu'il le pousse, ce public, dans son tour de pole position. C'est évidemment aussi pour se remettre un petit peu ce public dans la poche, alors qu'il avait senti un mécontentement.
Bien sûr, un mécontentement. Et d'ailleurs, même Toto Wolff a été à la retape, j'allais dire. Il en a presque trop fait, hein, Toto, pour défendre son pilote, en disant « c'est quasiment une insulte à un triple champion du monde. Il fait comme il veut avant de préparer son événement national. » Bon, c'est beaucoup, Patrick, mais on sait qu'effectivement, il y a un aspect psychologique dans tout ça, hein, c'est normal.
Oui, tout à fait. Mais enfin bon, Toto Wolff, il se mêle de ce qu'il le regarde. C'est l'état d'esprit de son pilote. Donc il faut qu'il suive ce qu'il veut faire. Et puis voilà, il serait venu à reculons, c'était pas bon non plus.
Oui, c'est clair. Puis quand on signe une pole comme celle-là, quand on claque une pole, surtout qu'on vous l'a dit, Valtteri Bottas, et on va y revenir dans un instant naturellement. Alors on va écouter maintenant l'homme qui lui a fourni la plus belle opposition, même s'il est, tenez-vous bien, à 547 millième sur un tour. C'est un véritable gouffre. C'est Kimi Raikkonen. C'est au micro de Louis Amar. Alors vous allez voir, avec l'enthousiasme habituel du pilote finlandais, répondre effectivement aux conditions qui prévalaient en Q1. C'est au micro de Louis Amar.
C'était des conditions assez difficiles, évidemment, particulièrement en Q1 avec les pneus intermédiaires. C'était très glissant par endroits et quasiment sec à d'autres, donc c'était piégeux, mais je m'en suis sorti. Ensuite, c'est allé mieux, la voiture était vraiment agréable à conduire. Je suis content des améliorations qu'on a apportées entre les essais et les qualifs. Bien sûr, on veut toujours faire mieux, mais c'est déjà bien comme ça. Maintenant, j'ai hâte d'être à la course pour progresser encore.
Ah bah si c'est pas de l'enthousiasme, ça comment t'as fait Louis pour lui faire sortir tous ces mots les uns après les autres, oui, avec en plus
il était heureux là,
hein, il était heureux là, il était éclaté là.
Absolument en pleine forme Kimi Räikkönen. Et dites-vous bien que d'habitude pour vous diffuser un son de Kimi Räikkönen, il faut compiler plusieurs réponses pour arriver à 25-30 secondes. Et ben là, c'est une phrase entière de Kimi Räikkönen d'un seul tenant.
Il était
ravi évidemment. Faut dire sans doute que ça lui a fait du bien de dépasser son équipier Sébastien Vettel en qualif. Ça n'est que la troisième fois en 10 séances de qualification qu'il y parvient. Sans doute fallait-il trouver là la cause de son sourire.
Épanoui. On va graver dans le marbre de la radio, de RMC, la radio de la Formule 1, les 26 secondes non-stop enregistrées par Louis Hamar avec Kimi Räikkönen qui sera sur la première ligne de la grille de départ. Alors une Mercedes en cache évidemment une autre. La deuxième, évidemment, on s'y attendait un petit peu, Adrien, même si Vettel, il n'a pas fait tout à fait ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il aurait dû faire peut-être. Hein.
Oui, après, je ne sais pas si Kimi Räikkönen était au courant que Sébastien Vettel n'a pas utilisé de pneus neufs dans sa deuxième tentative en Q3. Sébastien Vettel qui avait un train rodé, je pense qu'il a gardé pour la course, mais peut-être un péché d'optimisme pour Sébastien Vettel. Je pense qu'il pensait être devant Kimi Räikkönen, même avec un train de pneus frais, juste.
Ouais. Je pense aussi. Ouais.
Voilà. Donc effectivement, Sébastien Vettel, il est là en embuscade. Il sait très bien que Kimi Räikkönen s'effacera s'il est plus rapide que le pilote finlandais. Maintenant, oui, Kimi Räikkönen fait une belle performance parce qu'il est souvent meilleur en course que ce qu'il n'est en qualif, et il va falloir le surveiller pendant cette course. Comme on le disait tout à l'heure, ça sera très important de prendre un bon départ, et qui sait, le pilote finlandais va peut-être griller la politesse à Lewis Hamilton.
Ah, c'est sa seule chance, hein, parce qu'on le sait bien, si jamais il n'est pas devant, effectivement, du côté de chez Ferrari, on sait très bien qu'on a mis les œufs dans le panier de Vettel, et que c'est vrai qu'au championnat, eh bien, c'est lui le véritable opposant naturellement dans la guerre avec Lewis Hamilton. On va l'écouter, Seb Vettel, justement. Il ne dit pas ce que tu dis, Adrien, mais je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, il a petit péché d'orgueil en pensant que ça suffirait largement. Eh bien non, au micro de Louis Hamar. Enfin, il se montre quand même relativement satisfait, Seb Vettel.
Je crois qu'on est assez satisfait du résultat aujourd'hui. Faire 2 et 3 était sans doute ce qu'on pouvait espérer de mieux, parce que Lewis était vraiment trop rapide. Et puis surtout, on a réussi à aller chercher de la performance par rapport aux deux premières séances d'essai vendredi. On sentait beaucoup mieux la voiture, donc on a su rattraper notre retard, et c'était pas mal aujourd'hui.
Alors oui, Patrick, on sait que d'habitude les Ferrari sont un petit peu mieux en course que aux essais face aux Mercedes, mais là c'est vrai qu'il y a un gap, hein, avec un Vettel pratiquement à 8 dixièmes de Lewis Hamilton.
Mais pour rejoindre ce que disait Adrien, il y a peut-être quelque chose à faire là, d'autant plus qu'il fait assez froid, je crois, un peu moins de 20 degrés. La température des pneus étant, la fenêtre de fonctionnement étant très 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 petite, ça risque d'être très positif pour Vettel.
Oui. Alors Vettel, il a essayé quelque chose là d'un peu différent. C'est le fameux, vous savez, les protections du casque, hein, pour les pilotes de F1. On en parle beaucoup. On a parlé toute la saison dernière avec le halo absolument hideux qui venait couper en quelque sorte la visibilité des pilotes avec ce mât central juste devant. Et bien là, maintenant, on essaie le shield. Alors c'était une autre suggestion. On va le voir. Il a été monté dans la première séance d'essai libre sur la Ferrari de Michael Schumacher, qui a pas été vraiment convaincu. C'est un euphémisme, en tout cas c'est ce qu'il a dit à Louis Hamar.
Je l'ai essayé ce matin et ça m'a fait un peu tourner la tête. On ne voit pas bien devant soi. Je pense que c'est à cause de la courbure du bouclier, ça crée une distorsion. Et puis sur les lignes droites, ça fait une espèce d'appel d'air qui pousse le casque vers l'avant. Donc on avait prévu de le garder un peu, mais je n'étais pas à l'aise et je l'ai enlevé.
Oui, Patrick, t'as évidemment jamais eu l'occasion d'essayer ce genre de choses un petit peu bizarre. Alors c'est vrai que le tout sécuritaire, même en Formule 1, on en comprend la raison, évidemment, on va pas la discuter. Est-ce que c'est pas beaucoup trop finalement, et est-ce que la solution, c'est pas de permettre au pilote de bien y voir, parce qu'après il y aura d'autres risques si la vision du pilote est perturbée par des éléments comme cela.
Tu peux transformer la sécurité par de l'insécurité,
oui.
De fonctionnement.
Bien sûr.
Mais je pense qu'ils vont trouver une solution en essayant différentes chose. Là, c'était peut-être un petit peu trop rapide. J'ai pas vu le système. Ouais. Mais enfin, je pense que c'était inutile.
Oui, ton avis de pilote, Adrien, aussi. C'est vrai que on essaie de trouver des solutions. Encore une fois, c'est très bien. Mais est-ce que le remède ne serait pas pire que le mal, finalement?
Ouais, je vous rejoins tous les deux là-dessus. Peut-être que la solution a été trouvée un peu trop rapidement, parce que définitivement pas au point en tout cas. Et puis si c'est pour qu'une Formule 1 ressemble à un prototype des 24 heures du Mans, autant rassembler les deux catégories. Voilà, je pense que la Formule 1 reste la Formule 1, que c'est des monoplaces ouvertes avec voilà le casque du pilote à l'air libre, et malheureusement le risque zéro n'existe pas, même si on comprend tous qu'il faut se rapprocher du risque zéro.
Bien sûr. Patrick, je vais te remercier beaucoup pour avoir été avec nous dans cette première partie de Motors avant le Grand Prix. C'est toujours un plaisir de t'entendre, et puis je te souhaite un bon Grand Prix. Je sais que tu vas rester avec nous.
Je vous écoute.
Salut papa.
Merci. Religieusement. Salut mon fils.
Merci Patrick. Alors justement, la transition est toute faite. Avant de marquer une petite pause, on a encore plein de sons à vous faire écouter. C'est que se déroule actuellement, et le départ a été donné il y a 16 minutes exactement. C'est en direct sur Motorsport TV, et la course sera en intégralité. Il s'agit des 6 heures du Nürburgring. C'est une épreuve du championnat du monde d'endurance, le fameux WEC. C'est la 4e épreuve, un mois après les 24 heures du Mans. Alors pour le moment, c'est Porsche qui domine au championnat devant Toyota, et chez les pilotes, c'est pareil. Bamber, Bernhard et Hartley qui ont remporté les 24 heures du Mans sont en tête du championnat, mais c'est Toyota, les deux Toyota, qui avaient signé les meilleurs temps aux essais. Donc bah évidemment, vous restez avec nous, mais si vous gardez un œil quelque part tout en écoutant RMC, eh bien c'est sur Motorsport TV pour cette 4e manche du championnat d'endurance, le WEC. Allez, on va vous parler, nous, de Formule 1, de Silverstone, du 10e Grand Prix de la saison. C'est dans Motors, c'est sur RMC, c'est tout de suite, vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motors TV. RMC, ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 est à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Cet après-midi, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. RMC Motors, Jean-Luc Roy.
Allez, on y revient à cet avant Grand Prix de Formule 1, du Grand Prix de Silverstone, 10e manche du championnat du monde. Tiens, on ne le répète jamais assez, le classement au championnat, eh bien c'est Vettel qui est leader, vous le savez, avec 171 points après sa deuxième place à 6 petits dixièmes seulement lors du dernier Grand Prix en Autriche. Lewis Hamilton, lui, n'a pu terminer que 4e au pied du podium, puisqu'il est parti 8e, vous le savez. Il totalise 151 points, c'est-à-dire qu'il est à 20 points du leader. Et puis derrière, 15 points, on trouve l'homme qui a déjà remporté 2 Grands Prix pour Mercedes depuis le début de la saison. Le premier en Russie, le deuxième en Autriche précisément, c'est-à-dire le Finlandais Valtteri Bottas, qui devance Daniel Ricciardo, vainqueur il y a peu en Azerbaïdjan, grâce à des circonstances certes, mais il est toujours très solide, Daniel Ricciardo, qui a enchaîné 5 podiums, dont une victoire. Et puis on trouve ensuite, au 5e rang, Kimi Raikkonen avec 83 points. Voilà pour le championnat du monde. On en revient cette fois à la grille. On a entendu au micro de Louis Hamar, il y a un instant, Lewis Hamilton parlait évidemment de cette pole et puis de cet enchantement pour lui de rouler à domicile. On a entendu Kimi Raikkonen, enthousiaste comme jamais par le fait de partir depuis la première ligne. On a entendu Vettel parler du Shield. Et ben voilà, on en arrive, Adrien, à Verstappen. Alors Verstappen, il est un petit peu frustré pour le moment, hein, parce qu'il est accablé par les problèmes mécaniques. On va dire qu'en 7 Grands Prix, il n'en a terminé que 2.
Oui, le sort qui semble s'acharner sur Max Verstappen depuis le début de la saison, tout simplement. Et puis hier, ça s'est peut-être inversé hier. C'est Daniel Ricciardo qui a eu des soucis en qualification, des soucis mécaniques une fois de plus. Pour Max Verstappen, c'est important de continuer, de serrer les dents, d'être là jusqu'au moment où ça sourira, parce que ça va sourire. La roue tourne et pour l'instant, il est en bonne position. Il est juste derrière les trois hommes de tête, avec la pénalité de Valtteri Bottas. Donc c'est le premier du reste, et sait-on jamais, si la pluie venait à arriver, Max Verstappen est très agile dans ces conditions et il pourrait faire des miracles.
Alors parlons-en justement, Louis, de ces conditions météorologiques. On annonçait 20 à 30% de chance ou de malchance selon le cas de pluie à Silverstone. Comment tu le sens là, alors qu'on est à 37 minutes du départ du Grand Prix maintenant?
Ben honnêtement, pour l'instant, pas vraiment de pluie à l'horizon. Ouais. J'aperçois même un petit peu de bleu dans le ciel. Alors c'est vous dire l'événement incroyable qui se produit ici à Silverstone.
Il est 13h24.
21... ouais, c'est ça. 21 degrés dans l'air. C'est une canicule en Angleterre.
Oui,
le plan canicule est déclenché. Les gens sont en t-shirt et en short. Ils transpirent par tous les pores de leur peau. Mais effectivement, pour l'instant, pas de pluie, bien que le ciel soit toujours chargé de quelques nuages. On attend encore les prévisions officielles de la FIA, qui est un petit peu comme la semaine dernière en Autriche, tarde à venir. Pour l'instant, nous ne les avons pas, mais en tout cas c'est moins menaçant, la pluie est moins probable qu'hier lors de la séance de qualif, où là on la sentait venir à 10 km.
Et oui, puis on en a eu un petit peu d'ailleurs pendant la Q2, notamment avec la piste qui s'est humidifiée, qui est devenue délicate à gérer pour les pilotes. On va écouter, je vous l'ai annoncé il y a un instant, Verstappen, Max Verstappen, le Hollandais volant, au micro de Louis Hamar, justement, un petit peu désabusé, en tout cas en ce qui concerne ses capacités en matière de qualification.
Il n'y avait pas vraiment de compétition. Les voitures devant moi étaient trop rapides et celles derrière moi étaient trop lentes, donc j'ai conduit tout seul. Quant à la course, c'est sûr que Bottas va revenir aux avant-postes. J'essaierai de me défendre le mieux possible en espérant qu'il y ait quelques incidents devant. Ces derniers temps, j'ai été très malchanceux et ça doit cesser.
Et oui, il faut que ça s'arrête, ça, il a bien raison de le dire, évidemment, on peut le souhaiter, on peut, Adrien, faire pression sur son équipe, là aussi, mais évidemment, la chance, la malchance, on la commande pas, quand même. Hein.
Oui, crois que on en a parlé, Jean-Luc, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, il faut de la réussite aussi en sport automobile, c'est du sport mécanique, et il y a des éléments qu'on maîtrise pas, même si on essaye toujours d'éliminer tous les petits gremlins, tous les détails qui feraient des erreurs d'un point de vue mécanique, mais d'un point de vue du pilotage aussi. Pour l'instant, Max Verstappen n'en a pas fait d'un point de vue du pilotage, et voilà, il doit serrer les dents et continuer comme ça, ne pas commencer à en faire lui personnellement au moment où la chance lui sourira du point de vue mécanique.
Et oui, pas trop se mettre la pression effectivement et passer entre les gouttes, même si elles ne sont pas présentes. Alors on va parler maintenant d'un homme qui lui aurait dû se trouver sur la deuxième ligne de la grille de départ grâce à son quatrième temps. Il s'agit évidemment de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, l'homme qui l'a emporté il y a eu à peine une semaine, hein, Louis, parce qu'on rappelle qu'on est back-to-back là en termes de Grand Prix. Heureusement que c'est un Grand Prix à domicile d'ailleurs pour les équipes, parce que c'est toujours un petit peu compliqué à gérer.
Oui, c'est plus compliqué à gérer pour les équipes, parce que évidemment, pour tout ce qui concerne les voitures, les pièces mécaniques, c'est pratique quand les usines sont juste à côté. En revanche, il y a un défi logistique énorme, c'est de transporter les hospitalités, ces motorhomes, oui, ces structures d'accueil qui peuplent les paddocks lorsque nous sommes en Europe. Et évidemment, en une semaine, c'est très difficile. D'ailleurs, les équipes attendent avec une certaine anxiété le triple back-to-back qui est prévu au calendrier pour l'année prochaine, avec notamment le Grand Prix de France pour ouvrir cette séquence de trois Grands Prix consécutifs, où là le défi sera encore plus important à gérer, mais ça s'est bien fait, hein, même s'il y avait encore quelques écuries qui s'installaient tardivement le jeudi matin, il n'y a pas eu de problème en la matière.
Alors tu l'évoques effectivement, puisque je l'ai sous les yeux, le calendrier de 2018, et on a plaisir à le saluer, ce retour du Grand Prix de France au circuit Paul Ricard, ce sera le 24 juin, mais le 1er juillet on sera en Autriche au Red Bull Ring effectivement, et le 8 juillet comme c'est le cas actuellement, eh bien ce sera Silverstone. Ça veut dire que là l'exercice, il va être effectivement tendu et périlleux. Alors, on a parlé effectivement d'un homme qui aurait dû signer, enfin qui a signé, ça c'est fait, la quatrième performance sur la piste, c'est Valtteri Bottas. Est-ce qu'on peut pas être, Adrien, un petit peu déçu quand même par la perf de Bottas? 1 minute 27 secondes, 376 millièmes, c'est quand même près de 8 dixièmes par rapport à Lewis Hamilton. Il a pris l'addition. Là, quand même.
Clairement, il y a quelque chose qui s'est mal passé chez le Finlandais, Jean-Luc, parce que Valtteri Bottas était en tête des essais libres 1, en tête des essais libres 2, il était dans le match, et là il prend plus de 7 dixièmes par rapport à son coéquipier, c'est un monde tout simplement. Alors est-ce que ce sont les conditions de piste un peu humides en début de qualif qui lui ont enlevé un peu de confiance? Est-ce que Lewis Hamilton a vraiment fait la différence à la fin? Je pense qu'il était vraiment transcendé, le pilote britannique, devant son public. Ah oui. Je pense que les petits, on appelle ça les patchs d'humidité sur la piste, il ne les voyait pas, le pilote anglais. Et voilà, plus de confiance, je pense, peut-être pour Valtteri, une ou deux erreurs dans le deuxième secteur.
Et puis effectivement, tu as raison, parce qu'il a creusé un écart, on l'a dit, 547 millièmes. C'est quand même exceptionnel. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu un tel écart entre le premier et le deuxième sur une grille de départ. En revanche, eh bien, avec un temps d'une 27-376, Bottas n'était pas loin de Raikkonen, une 27-147, et encore moins loin de Vettel, une 27-356. Donc on peut dire que derrière, il y a un vrai paquet qui est très très regroupé. On va l'écouter justement, le pilote finlandais, Valtteri Bottas, vainqueur du dernier Grand Prix en Autriche, faut-il vous le rappeler, et troisième larron dans la bataille pour le titre. C'est au micro de Louis Hamar.
Partir 9e n'est pas idéal, mais demain est un autre jour et je vais miser sur une stratégie différente. Je vais partir en pneu soft alors que les autres seront en super soft, donc ça devrait me donner de belles opportunités. Mais c'est dommage que je me sois un peu loupé en qualif, l'écart est assez important avec les plus rapides. Je pense que Lewis a mieux fait marcher ses pneus que moi. J'ai eu quelques difficultés après la pluie quand la piste s'est asséchée.
Eh ben voilà, c'est exactement ce qu'Adrien venait de vous dire, effectivement, cette confiance qu'il n'avait pas totalement, et ça fait quand même la différence, hein, parce qu'il aurait dû, là il y a un gouffre, hein, il aurait dû terminer deuxième, logiquement, avec la Mercedes, Adrien, dont il dispose.
Oui, effectivement, on parlait de différence de temps autour, entre Lewis Hamilton qui a une Mercedes et Kimi Raikkonen qui a une Ferrari, les 5 dixièmes sont peut-être explicables, mais entre Lewis Hamilton et Bottas, 7 dixièmes, c'est beaucoup. En tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est que Valtteri Bottas a été le seul pilote qui a utilisé dans son tour le plus rapide un train de pneumatique soft en Q2, donc ça lui permettra de partir avec ce train de pneus là, et ça sera le seul du top 10 à pouvoir se décaler au niveau stratégie. Il ira sûrement plus longtemps que les autres dans son premier relais,
et c'est un élément très important. J'entends un murmure derrière toi, Louis.
Ça veut dire crissement.
Oui, ça veut dire qu'on a ouvert la voie des stands, par exemple, hein, puisqu'on est à 30 minutes du départ du tour de formation.
Exactement, une demi-heure pile sous un ciel toujours chargé de nuages, la voie des stands est ouverte. Et pour poursuivre ce que vous disiez, messieurs, au sujet de la stratégie de Valtteri Bottas, il faut noter que vendredi, lors des premières séances d'essais libres, il s'est essayé à de longs relais avec des pneus médium, sachant que Valtteri Bottas était déjà au courant qu'il serait pénalisé de 5 places sur la grille à cause d'un changement de boîte de vitesse. Peut-être se dirige-t-on pour le Finlandais vers une stratégie à un seul arrêt, démarrer avec des pneus tendres, terminer avec des médiums, et donc économiser un ou deux arrêts par rapport à ses autres poursuivants, ce qui lui permettrait de gagner des places.
Et oui, voilà qui pourrait être très intéressant en termes de stratégie, effectivement. Bon, tu l'as dit, il ne fait pas très très chaud, 20-21 degrés à peine, Adrien. On a été discret sur la stratégie, là, justement, pour ce Grand Prix qui va durer 52 tours, c'est pas beaucoup, mais le circuit est long et très exigeant, notamment en force latérale.
Je sais pas si Louis a eu des informations de par Pirelli sur place, mais en tout cas c'est un circuit qui est dur pour notamment les pneumatiques avant, dans tous ces enchaînements de virages rapides. C'est toujours très compliqué de garder de la performance dans ces pneus sur un long relais. Louis, est-ce que chez Pirelli ça a filtré? Est-ce qu'on sait combien de ravitaillement il y aura? Sûrement deux, non?
Oui, on parie sur deux, mais on n'exclut pas trois. C'est vrai que les gens chez Pirelli sont un petit peu plus discrets ce week-end que les autres week-ends au sujet de la stratégie à adopter. Donc on dit normalement deux, peut-être trois. C'est pour ça que si jamais Valtteri Bottas n'en effectuait qu'un, ça serait un sérieux avantage pour lui.
Ah oui, là il peut reprendre un avantage parce que traditionnellement c'est de l'ordre de 22-23 secondes hein, la taxe quand on repasse par la zone des stands. Donc la taxe, la perte de temps naturellement. Donc là c'est pas une pénalité pour le coup. Les pénalités c'est autre chose. Alors, on vous déroule toujours cette grille de départ à 28 minutes maintenant du départ du tour de formation. On vous rappelle que Lewis Hamilton a signé une pole extraordinaire dans tous les sens du terme, vraiment. La cinquième sur ce tracé à Silverstone qui le met au niveau de l'illustre Jim Clark. Jim Clark qui, vous le savez, est le mythique champion du monde de Formule 1. Et oui, deux titres seulement à son actif. Jim Clark, c'était dans les années 60, mais malheureusement, il a disparu, vous le savez, dans une épreuve de Formule 2 à Hockenheim, mais c'était vraiment un pilote extrêmement admiré en Grande-Bretagne. Donc il est au niveau du nombre de pole position, Lewis Hamilton, 5 poles, je vous le disais. Au niveau du nombre de victoires, eh bien il lui en faudrait une de plus. À ses côtés, il aura Kimi Raikkonen, ça c'est la première ligne. La deuxième, elle est emmenée par Sébastien Vettel qu'on a entendu tout à l'heure, un petit peu déçu malgré tout. Et puis il aura Max Verstappen à ses côtés. On en arrive au cinquième. Voilà, j'ai fait monter la sauce, j'ai fait du teasing comme l'on dit. Pourquoi? Eh bien parce que le cinquième, c'est un pilote Renault, Adrien, c'est Nico Hülkenberg, et qui pour les 40 ans de l'arrivée de Renault en Formule 1 en 1977 avec une machine turbo, eh bien il a bien fêté ça.
Bah, on le savait, hein, Nico Hülkenberg très très performant, très très solide. Il met encore une fois une pilule, pardon du mot, à Julian Palmer, son coéquipier qui s'arrête. Bon, un peu mieux que d'habitude, il est 11e.
Il a mis quasiment toute la boîte de médicaments là.
T'es dur, Louis. Mais c'est un circuit compliqué où toutes les qualités de Nico Hülkenberg ressort tout simplement, et puis les qualités aussi de la voiture, du châssis, de l'aérodynamique, de la Renault. Il est quand même capable, s'il est capable de faire un temps sur ce circuit-là, de se positionner juste derrière Max Verstappen, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que Renault fait des progrès et est sur le bon chemin, donc c'est très positif pour nous Français patriotes.
Eh oui, c'est une super nouvelle, hein, Louis, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a été patient l'an dernier. On savait pourquoi avec cette équipe Renault qui revenait seulement avec une machine qu'elle n'avait pas dessinée. Cette année, soyons crus aussi, on attend un petit peu mieux de la part de Renault, d'autant que les moteurs fonctionnent. Hein. C'est le châssis qui serait pas tout à fait au niveau, puisque chez Red Bull, on gagne des grands prix. On l'a démontré avec Ricciardo, Louis.
Exactement. Alors la fiabilité du moteur, elle est quand même encore à mettre en cause parfois, notamment sur la monoplace de Max Verstappen, qui le prouve assez régulièrement ces derniers temps. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a eu de nets progrès de ce côté-là. Le châssis semble peiner et Nico Hülkenberg hier a rendu sa cinquième place encore plus éclatante de ce fait-là. Elle est magnifique, la performance qu'il a signée, l'Allemand, hier en qualification. Il s'approche de la meilleure qualif de son histoire. Il a signé une pole dans son histoire, c'était en 2010 au Brésil. Sinon, oui, il n'a jamais été dans les deux premières lignes. Et c'est vrai que c'est une magnifique performance pour lui, à la décharge quand même de Julian Palmer, pour ne pas trop l'accabler. Nico Hülkenberg était équipé d'un nouveau fond plat sur sa monoplace, ce qui n'était pas le cas de Julian Palmer. D'accord. Et Hülkenberg nous explique que ça a sans doute un petit peu joué également dans sa performance.
Enfin, il lui colle une seconde de trois, hein, quasiment, oui. Donc voilà. ça fait quand même beaucoup.
Même si le fond plat est la partie qu'on veut avoir à Silverstone, c'est un circuit très rapide avec des virages rapides et ça peut faire un gros avantage.
Oui, Louis, on va revenir juste d'un mot, si tu veux bien, sur ces 40 ans de Renault en Formule 1. Et là aussi, c'est un petit peu de mémoire. C'était au mois de mai 1977 que cette machine à moteur turbo, à moteur 1500 cm3 V6 est apparue aux mains de Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre Jabouille qui allait décrocher la première victoire de Renault à Dijon deux ans plus tard, en 1979. On a célébré ça comme il fallait. Il y a René Arnoux qui est là, notamment, et qui a piloté la machine de Jean-Pierre Jabouille. Hein, c'est bien ça, Louis?
Exactement, il a piloté la machine de Jean-Pierre Jabouille. Hier, il y avait une petite sauterie organisée par Renault dans la voie des stands, où René Arnoux a pu poser devant cette monoplace. D'ailleurs, pour la petite histoire, juste à côté, parce que ça se passait dans le garage Renault, il y avait la monoplace de Nico Hülkenberg qui était sous régime de parc fermé, et Nico Hülkenberg était là. Il y avait des DJ, il y avait un bar, il était pas très tard, hein, mais il était un peu inquiet quand même de voir les gens danser et boire des coups à côté de sa monoplace. Il se demandait si quelqu'un allait pas tomber dessus, et donc il regardait tout ça d'un œil assez inquiet, Nico Hülkenberg. Mais oui, il y a des festivités et toute l'équipe Renault est d'ailleurs habillée d'une chemise vintage, une chemise édition limitée, spécialement confectionnée pour ce Grand Prix, blanche à lisière jaune, pour rappeler l'habit de l'équipe Renault en 1977.
Bon, super, j'espère que tu vas nous en rapporter une, effectivement, Louis, c'est ta mission, si tu l'acceptes. Allez, on est dans Motors, on est maintenant à 24 minutes exactement du tour de formation du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. On vous donne toutes les clés avec Adrien, avec Louis, vous restez avec nous dans Motors.
RMC Motors avec Motors TV. RMC Motors. Jean-Luc Roy.
Et oui, on y revient à ce Motors spécial, vous le savez, avant le 10e Grand Prix de Formule 1 de la saison 2017, qui sera emmené plus que jamais par Lewis Hamilton, le poleman du jour. Une pole extraordinaire, Lewis qui doit refaire son retard. Il a 20 points de retard sur son adversaire direct, Sébastien Vettel, qui mène le championnat. Et attention, on l'a évoqué au retour de Bottas, mais il ne sera pas seul non plus. Alors, on vous a beaucoup parlé de Renault, bah c'est que évidemment Louis Hamar a rencontré Nico Hülkenberg, qui était très inquiet pour sa monoplace lors de la petite sauterie d'hier soir. C'est pas de ça dont il va vous parler, c'est de la position qu'il a réussi à décrocher sur la grille de départ avec ce cinquième temps.
Je ne crois pas que ce soit de la chance, c'est du mérite. On a eu un super rythme toute la journée et on est juste derrière les grosses écuries. Je pense que mon nouveau fond plat a bien aidé. Ce sont des petites choses, mais ça compte. On avait les bons pneus au bon moment. Je me sentais en confiance et heureux dans la voiture. Donc toutes ces choses ensemble mènent à une qualif vraiment réussie.
All these things together mean a very successful qualifying.
Voilà, la réaction de Nico Hülkenberg avec cette belle qualif et ce nouveau fond plat. Adrien, c'est vrai qu'il y a peut-être une chance à jouer. Bon, c'est premier des autres, hein, on va être clair. Devant, il va juste avoir Max Verstappen qui est équipé du même moteur. C'est encore un petit peu ambitieux d'espérer Hülkenberg batailler avec Verstappen.
Je pense honnêtement que si Hülkenberg pouvait terminer dans cette position, tout en sachant que Valtteri Bottas va s'élancer derrière lui, donc il va être emmené dans une folle remontée, le pilote finlandais, ça va être difficile de le contenir. Mais la Renault de Nico Hülkenberg, je pense, aurait pour objectif, ou a pour objectif, de finir comme ça dans les points, dans le top 6. Mais ça sera compliqué parce qu'on a derrière Sergio Perez et Esteban Ocon, avec les deux monoplaces Force India, des moteurs Mercedes, qui seront très rapides en ligne droite et qui sont très rapides en course à chaque fois. Donc difficile pour Nico Hülkenberg. Je pense qu'il a fait une très bonne qualif en tout cas par rapport au potentiel intrinsèque de sa voiture.
C'est clair. Et puis derrière, eh bien, en escadrille groupée, puisque je rappelle que Silverstone, c'était un terrain d'aviation utilisé utilisés pendant la dernière guerre mondiale pour les bombardiers, hein, les bombardiers britanniques, les Halifax notamment, et les Wellington qui allaient bombarder la vallée de la Roure. Et bien ça partait de là, et après c'est devenu un circuit en 1950 pour le premier Grand Prix. On trouve en escadrille, disais-je donc, les Force India Mercedes Louis de Sergio Pérez et Esteban Ocon. Allez, soyons honnêtes, il y a un gros dixième d'écart entre les deux, et Louis, on a espéré que Ocon pourrait devancer Sergio Pérez sur la grille.
Absolument, mais encore une fois, comme trop souvent sans doute doit le penser Esteban Ocon depuis le début de la saison, pour la 9e fois en 10 qualifs, c'est Sergio Pérez qui est sorti vainqueur de la Guerre des Roses. Il est donc en 6e position, Esteban Ocon lui est 7e. C'est d'autant plus dommageable, messieurs, que depuis le début du week-end, et c'était aussi le cas en Autriche notamment, depuis le début du week-end, Esteban Ocon était devant Sergio Pérez lors des séances d'essai. Et puis en Q3, il y a un petit blocage pour Esteban Ocon, il n'y arrive pas à se mettre au niveau de Pérez. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose qui lui manque pour tenir vraiment la dragée haute à son coéquipier. Mais en être à ce niveau-là à mi-saison, c'est déjà bien pour un Français qui en est à sa première année complète en Formule 1.
C'est carrément très bien. Puis on connaît les résultats de Esteban Ocon. Il est 8e au classement général provisoire du championnat avec 39 points. Pérez en compte 50. Et on sait qu'effectivement, les deux hommes sont souvent côte à côte et en bataille pendant les Grands Prix. Adrien, alors on a vu de quelle manière, d'ailleurs, chez Force India, hein, on l'a souligné, en Autriche, eh bien, comme par hasard, on a arrêté Pérez un petit peu plus tôt, 7-8 tours plus tôt que Esteban, ce qui a permis à Pérez de repartir avec des pneus plus frais et de faire une petite différence, pas beaucoup.
Oui, j'ai tendance à dire qu'ils gèrent plutôt très bien les choses chez Force India, parce qu'ils ne prennent pas position dans les médias, ils ne donnent pas trop de déclarations qui pourraient mettre de l'huile sur le feu. Oui. Voilà. Mais par contre, ils arrivent, comme tu le dis, à les décaler un peu en stratégie, le faire de manière sioux. Et voilà, pour en revenir à Sergio Pérez, il arrive toujours, hein, le bougre, à sortir un tour en Q3. Il arrive, alors je ne sais pas si jusqu'à ce moment-là, en Q1 et Q2, il est toujours en période de réglage et il essaye de tout mettre ensemble. Mais en tout cas, dans le dernier tour, dans celui qui compte, il y arrive à chaque fois. Il se hisse à chaque fois devant Esteban Ocon, un tout petit peu devant, ça se resserre de plus en plus. Mais il va y arriver, Esteban Ocon. Et là, 6e, 7e, c'est une belle position, c'est deux belles positions. On sait que l'usine Force India est juste à côté de Silverstone et c'est important. D'ailleurs, Vijay Mallya est sur place pour son seul Grand Prix de la saison. Il a pu venir.
puisqu'on sait qu'il est un peu coincé, un peu assigné à résidence. Bon, on sait qu'il a quelques ennuis judiciaires, Vijay Mallya, le copropriétaire de cette équipe avec le patron de Sahara qui lui est coincé en Inde. Donc c'est pas trop facile. Mais bon, tant mieux, ça ne nuit pas à l'écurie. On va écouter ce qu'Esteban Ocon, évidemment, qui porte nos espoirs, faut-il le dire, ce qu'il a dit à Louis Amar à propos de cette qualif un petit peu spéciale et notamment humide en Q2.
Le run de Q2, en fait, j'avais plus de radio. Donc, les pièges complets, ma voiture était en feu en Q2, j'avais les freins arrière en feu, donc vraiment compliqué. En plus, je savais pas vraiment le profil du run parce que on évoluait avec les conditions de piste, etc. Donc, à l'ancienne, à regarder le panneau. Et à faire comme on peut. Donc, on s'en est bien sorti. C'est quand même une bonne position pour partir demain. Tout est possible. Et puis on a une bonne voiture depuis le début du week-end. Donc, à voir. Mais si c'est sûr que s'il pleut et s'il se passe des choses, des opportunités, comme d'habitude, il faudra la saisir.
Eh ben non, Louis, hein, tu nous confirmes là maintenant 17 minutes du départ du tour de formation. A priori, la pluie, on devrait pas la voir hein, pour le départ de ce Grand Prix. Oui.
Pas encore, mais ça peut vite changer, messieurs. Ça peut vite changer. Pour l'instant, en effet, en tout cas, il est quasiment acquis que le départ sera donné sur le sec. Voilà.
Bon, c'est déjà une nouvelle importante, effectivement. Puis le nombre d'arrêts au stand, Adrien, on l'évoquait tout à l'heure, 2 à 3, voire moins, pour un certain Bottas avec sa monte pneumatique différente, on va le rappeler.
Oui, ça serait très intéressant pour Valtteri Bottas. Je pense que c'est l'objectif. On a préparé chez Mercedes, on savait qu'on allait écoper d'une pénalité après la qualification. Donc, pour Valtteri Bottas, il va devoir doubler sur la piste, mais aussi dans les stands et au niveau de sa stratégie. Donc, il s'est décalé, il va pouvoir partir avec un train de pneus soft. Et comme le disait Louis précédemment, peut-être qu'il mettra un train de médium pour arriver jusqu'à la fin de ce Grand Prix. En ce qui concerne les autres, effectivement, 2 arrêts, je pense que ces virages rapides vont être durs sur les pneumatiques. Et puis il y a toute une portion aussi où le train arrière sera mis à rude épreuve et la traction des monoplaces importante. Donc, au minimum 2 arrêts, je pense, pour les autres pilotes, ceux qui partiront en super soft.
Ouais, on va étudier tout ça de près. Donc derrière, sur la grille de départ, derrière le duo des Force India Mercedes, donc de Sergio Pérez, 6e, et Esteban Ocon, 7e, eh bien, il faut souligner la belle performance de Stoffel Vandoorne avec la McLaren Honda. Oui, parce que c'est vrai que Vandoorne, il a vécu une première moitié de saison extrêmement difficile, avec cette McLaren Honda qui était pour le moins rétive. Et puis là, on l'a vu réaliser une très belle performance et devancer, lui, son équipier qui n'est rien moins que Fernando Alonso.
Et oui, lui aussi, il est en apprentissage, Stoffel Vandoorne, un petit peu à l'image d'Esteban Ocon. C'est sa première saison en Formule 1. Il n'avait alors disputé qu'un Grand Prix. C'était l'an passé à Bahreïn pour remplacer Fernando Alonso qui s'était blessé lors de la première course de la saison. Et pour la première fois, il a réussi à passer devant son équipier en qualif, Stoffel Vandoorne. Il était ravi hier. Alors, il est d'habitude assez prudent, assez réservé. Sa grande phrase, c'est « j'ai pas commis d'erreur de procédure ». Ça, il vous la répète à toutes les sauces, donc on y a eu droit hier. Mais il était quand même franchement soulagé parce que on sentait une petite pointe de doute commencer à poindre chez ses patrons, notamment chez Eric Boullier, qui attendait plus de Stoffel Vandoorne, qui lui accordait certes le crédit du débutant, mais qui en même temps aurait voulu le voir mieux performer. Et là, depuis en fait Bakou, Stoffel Vandoorne se rapproche vraiment des performances d'Alonso jusqu'à son coup d'éclat d'hier, qui va sans doute le motiver pour la suite de cette saison, alors que les pilotes sont en ligne pour le God Save the Queen.
Allez, on va l'écouter un petit peu, ce God Save the Queen, évidemment, l'hymne qui a un retentissement particulier ici à Silverstone. Se permettre d'interrompre le God Save the Queen, évidemment, au départ.
Tu veux une bonne nouvelle, Jean-Luc?
Oui, vas-y, Louis.
60% de chance de pluie durant cette course. La nouvelle vient de tomber, 60%.
Et ben voilà. Alors ça peut brouiller tout, brouiller les cartes, brouiller les performances. Allez,
rien à voir avec la chanteuse.
Ah non, j'ai bien compris, c'est pas elle qui fait tomber la pluie. On va écouter Romain Grosjean, parce que c'est lui qui est dans le top 10. C'est lui, le 10e homme avec sa Haas Ferrari. Effectivement, il était plutôt satisfait. À ton micro, Louis.
C'est pas mal, surtout dans des conditions difficiles comme ça. On a commencé sous la pluie, ensuite c'était un peu mixte et puis finalement on est sur le sec. Donc voilà, c'était une bonne qualification jusqu'à la Q3. Mon premier tour est complètement ruiné par Lewis. Il m'a clairement bloqué, j'ai perdu 3 à 4 dixièmes. Il n'y avait personne devant lui, il roulait au ralenti sur la ligne. Donc je suis arrivé et j'étais bloqué. Ça ne va pas être facile de suivre les voitures avec ces virages rapides. Maintenant, on va essayer de faire notre meilleure stratégie possible et voir où on se situe après le départ et voir comment on peut remonter.
Voilà, donc Romain Grosjean qui aurait, semble-t-il, pu faire un petit peu mieux, effectivement. Bon, on va pas épiloguer sur le sujet parce que on sait qu'on n'a pas trop apprécié la démarche de Romain Grosjean qui a entraîné d'ailleurs l'étude par la direction de course de la situation. Et heureusement, j'y dis heureusement quand même, Lewis Hamilton n'a pas été pénalisé. Je crois que le décor est planté, Adrien, là. On va maintenant, reste cette incertitude, plus d'une chance sur deux qu'il pleuve pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Oh bah, ça risque de nous faire une course très excitante, Jean-Luc, s'il venait à pleuvoir avec Max Verstappen, Esteban Ocon, Romain Grosjean, Valtteri Bottas. La remontée, ça va être top.
Ah ouais, ça va être top, absolument. Louis, on te retrouve dans un instant, évidemment.
J'espère bien.
Ah bah tiens, avec grand bonheur. Allez, on fait un saut. Et oui, c'est du côté du Tour de France, bien sûr, puisque c'est Christophe Cessieux qui va nous commenter également avec toute l'équipe une étape formidable du Tour de France. Et puis vous le savez, il y aura évidemment la finale de Wimbledon. Il y en aura des choses sur l'antenne de RMC.
Ouais. Un programme incroyable cet après-midi, Jean-Luc, effectivement, avec la 15e étape du Tour de France dans le Massif Central. Une grande bagarre a commencé. On va vous en parler dans un instant. Le Grand Prix donc de Grande-Bretagne de Formule 1 et la finale à Wimbledon. Restez avec nous cet après-midi. Si vous êtes passionné de sport, vous allez vous régaler. À tout de suite.